France Culture, il est midi et demi. Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Elle avait 29 ans, Lyra McKee, journaliste, a été tuée par balle la nuit dernière par un tireur qui avait pris pour cible des policiers à la suite d'émeutes à Londonderry. Une mort traitée comme un incident terroriste par la police nord-irlandaise.
Bientôt un nouveau soubresaut de la vague mondiale du rejet des élites.
Oui, en Ukraine, Zelensky, 41 ans, novice en politique, semble bien parti pour l'emporter ce week-end au second tour de l'élection présidentielle face au président sortant Petro Poroshenko.
Dans votre journal également, Thomas Cluzel, la crise politique au Mali.
Hier soir, le Premier ministre, sous le feu des critiques à cause de la situation à la fois sécuritaire et sociale du pays, a présenté sa démission et celle de son gouvernement. Scène de crime climatique, plusieurs centaines de manifestants écologistes se sont déployés ce matin à la Défense, près de Paris, dans plusieurs lieux symboliques de cette alliance qu'ils jugent toxique entre État et multinationales, accusés d'être responsables du réchauffement. Et puis invité de la page Europe dans une vingtaine de minutes, Daniel Ibanez, cofondateur du Salon du Livre des lanceuses et lanceurs d'alerte à l'occasion de l'adoption. C'était mardi par le Parlement de Strasbourg du projet de directive sur la protection des lanceurs d'alerte. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Pour une poétique de l'Europe, il l'a dit, fille de l'épopée et de l'utopie. Il en a fait tout un poème. Nous, l'Europe, banquet des peuples, apparaître chez Actes Sud. Il était samedi dernier avec nous à la Sorbonne, dans le grand amphithéâtre, dans le cadre du forum France Culture. Et il est à écouter tout de suite, enfin dans une vingtaine de minutes, dans la grande table.
Merci Olivia, à tout à l'heure. Des fresques montrant des hommes masqués et armés aux tags appelant à poursuivre la révolution inachevée en Irlande du Nord et tout particulièrement à Derry, Londonderry, théâtre du Bloody Sunday. Partout, le lourd passé de l'île déchirée par 30 années de troubles est gravé sur les murs. Le nom même de la deuxième ville d'Irlande du Nord, Derry pour les catholiques, Londonderry pour les protestants, illustre les divisions profondes entre deux communautés qui cohabitent, chacune retranchée d'un côté du fleuve qui traverse la municipalité, mais où la rancœur est encore tenue. C'est hier soir, c'est là donc à Derry, Londonderry, veille du Vendredi Saint qui a donné son nom à l'accord de paix signé en 98 et en amont du week-end pascal au cours duquel les républicains célèbrent le soulèvement qui avait abouti à la proclamation d'une république d'Irlande, qu'une femme de 29 ans, journaliste, a été tuée dans un échange de tirs dans ce que la police soupçonne être un incident terroriste. Marina Daras, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres. Alors, peu avant sa mort, Lyra McKee avait posté sur son compte Twitter une photo des violences survenues au cours de la nuit lorsque la police nord-irlandaise a donc été la cible de tirs, de jets de cocktails Molotov lors d'une opération de sécurité. A-t-on, Marina, davantage de détails sur ce qui s'est passé cette nuit ?
Alors effectivement, c'est au cours d'une opération de sécurité menée par la police aux alentours de minuit que les affrontements ont commencé. La police s'apprêtait à perquisitionner une maison du quartier de Craigan lorsqu'ils ont été reçus par une pluie de cocktails Molotov, une cinquantaine d'après la police. Les assaillants ont par la suite incendié deux voitures avant d'ouvrir le feu en direction des véhicules de police qui protégeaient une foule d'habitants venus voir ce qu'il se passait. Et parmi eux se trouvait la jeune journaliste de 29 ans, Lyra McKee, qui a été victime d'un tir de balle. Elle a succombé à ses blessures dans la voiture qui l'emmenait à l'hôpital. La police soupçonne la nouvelle IRA, une branche dissidente de l'armée républicaine irlandaise, d'être derrière ces violences. Alors ce groupe paramilitaire ne compterait qu'une cinquantaine de membres, mais il est néanmoins très dangereux. C'est pour cela que cet incident est traité comme un acte terroriste et qu'une enquête pour meurtre va être ouverte.
Alors précisons qu'en janvier dernier déjà, l'explosion d'une voiture piégée à Londonderry avait fait craindre une flambée de violence venant des groupes paramilitaires. Et puis il faut également rappeler, Marina, que si les divisions dont témoignent encore les violences de la nuit dernière semblent presque insurmontables, celles-ci ont été accélérées ces dernières années par les tensions autour du Brexit, au risque donc de réveiller les vieux démons.
Oui, effectivement, le Brexit menace de réinstaller une frontière physique entre les deux Irlandes, puisque la République d'Irlande fera toujours partie de l'Union européenne après le Brexit et que la frontière devra donc être contrôlée d'une manière ou d'une autre. Une frontière dure qui pourrait fortement fragiliser l'accord de paix du Vendredi Saint qui avait mis fin à ces violences. Et en plus de cela, l'Irlande du Nord n'a toujours pas retrouvé de gouvernement depuis la chute de sa coalition en janvier 2017 et les deux partis politiques principaux s'opposent sur tous les sujets. Il y a donc un manque cruel de leadership en Irlande du Nord, alors que le pays joue son futur dans les négociations sur le Brexit.
Merci Marina Daras en direct de Londres. Guerre et pauvreté, comment mettre fin au combat dans le Donbass et à la fois sortir du marasme économique. Ces cinq dernières années, en effet, l'Ukraine n'aura pas seulement dû endurer un conflit séparatiste meurtrier faisant plus de 13 000 morts. Non, l'un des pays les plus pauvres d'Europe ressort également éprouvé par d'innombrables difficultés économiques sur lesquelles pèse le poids de la corruption omniprésente. Et c'est dans ce contexte donc que les Ukrainiens seront appelés à se choisir un nouveau président ce week-end, ou plus exactement, ils auront le choix entre d'un côté un comédien et humoriste, Volodymyr Zelensky, lequel a décidé de jouer le rôle d'un politique populiste sans expérience ni véritable programme politique, et puis de l'autre un oligarque de l'ancienne garde, le président sortant Petro Poroshenko, soupçonné de corruption mais interlocuteur incontournable sur la scène diplomatique. Alors, en croire le dernier sondage publié mardi, avec 72% des intentions de vote contre 25% pour son rival, la victoire de Zelensky semble d'ores et déjà acquise, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle hier soir, Poroshenko, menacé d'une cinglante défaite, a demandé aux électeurs de lui pardonner ses erreurs et de lui confier un second mandat. Quoi qu'il en soit, les deux finalistes se retrouveront donc ce soir pour un débat aussi inédit qu'invraisemblable dans le plus grand stade du pays. En réalité, Poroshenko avait défié son rival de participer à un face-à-face sur un plateau télé, sauf que Zelensky a lui transformé cet appel en feuilleton rocambolesque, en posant ses conditions et notamment en exigeant donc qu'il ait lieu dans un stade avec deux scènes qui se feront face. Claude Brouillot, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes notre envoyé spécial en Ukraine. Même si une farce vaut sans doute mieux qu'une tragédie sans fin, il ne faudrait pas sous-estimer non plus l'enjeu de ce débat. D'un côté, l'épreuve de vérité pour Zelensky, puis de l'autre, Claude, la dernière chance pour Poroshenko.
Alors même avec 15 ou 20 points d'avance effectivement dans les sondages, Volodymyr Zelensky sait qu'il joue gros ce soir. Son camp affirme qu'il se prépare depuis plusieurs jours avec ses conseillers en économie et en diplomatie notamment, car le candidat comédien ne pourra pas cette fois s'en sortir avec seulement, vous savez, des effets de manche lorsqu'il s'agira par exemple de commenter les aides dont l'Ukraine dispose de la part du FMI, ou alors lorsqu'il faudra dire comment il entend réorganiser la lutte anticorruption quand l'organisme chargé de cette tâche colossale en Ukraine ne dispose aujourd'hui que de 700 fonctionnaires. Le danger pour Volodymyr Zelensky sera de commettre une grosse erreur d'appréciation qui entamerait son crédit sur l'un ou l'autre des sujets brûlants, tels que par exemple le conflit dans le Donbass ou les relations avec la Russie de Vladimir Poutine. Tout le jeu évidemment de Petro Poroshenko va consister ce soir à pousser donc Volodymyr Zelensky à la faute en démontrant que diriger un pays de plus de 45 millions d'habitants coincé entre la Russie et l'Union Européenne, cela nécessite une très solide expérience et une connaissance très pointue des grands problèmes du pays, autant de qualités absentes chez Volodymyr Zelensky, selon le président sortant. Toute la difficulté pour Petro Poroshenko, qui joue sa dernière carte ce soir avec ce débat, sera justement d'instaurer le débat et la confrontation d'argumentaires. Il lui faudra faire abstraction du contexte, un stade de football donc, des supporters adverses certainement hostiles, et en face de lui, un concurrent habitué à jouer sur scène avec tous les publics, et qui s'efforcera de démontrer, par un cise quelque peu théâtral d'ailleurs, que le pays, dans sa majorité, ne veut plus de Petro Poroshenko.
Merci Claude Brouillot, envoyé spécial en Ukraine. Le ministère russe des Affaires étrangères a non seulement réfuté ce matin les conclusions du rapport Mueller, selon lequel Moscou a tenté d'interférer dans le processus électoral américain en 2016, mais il conteste par ailleurs l'existence de la moindre preuve. Ce rapport, rédigé au terme d'une enquête de près de 2 ans, est rendu public hier dans une version expurgée, mettant en lumière des contacts entre l'équipe de campagne de Donald Trump d'un côté et des représentants russes de l'autre, sans toutefois incriminer formellement et personnellement le président américain. Un soulagement bien entendu pour Donald Trump, qui s'est aussitôt estimé blanchi. En revanche, les démocrates restent bien déterminés à auditionner le procureur spécial pour tenter de dissiper des zones d'ombre, notamment sur le volet de l'obstruction à la justice. L'Inde a lancé hier la deuxième des 7 phases de ces gigantesques élections législatives prévues jusqu'au 19 mai, les plus grandes de l'histoire. Une nouvelle étape marquée notamment par des tensions dans la région poudrière du Cachemire, où le gouvernement est confronté à une insurrection séparatiste. Et puis, faut-il y voir une preuve supplémentaire de ce que le parti nationaliste hindou au pouvoir, BJP, a choisi de jouer la carte du communautarisme et de la division lors de ces élections? Toujours est-il que l'opposition dénonce à présent la nomination controversée d'une candidate, Priya Thakur, une religieuse d'extrême droite, toujours accusée dans un attentat à la bombe qui avait fait 6 morts et 100 de blessés en 2008, même si elle a depuis été libérée sous caution pour des raisons de santé. C'est une correspondance signée Antoine Guinard.
Pour le BJP, le parti nationaliste hindou au pouvoir, Priya Singh Thakur est victime d'un complot visant, je cite, à diffamer les hindous. La nomination de cette extrémiste religieuse sur la liste du parti à Bhopal, dans le centre de l'Inde, mercredi, est pour l'opposition un nouvel affront à la démocratie indienne et constitue, selon elle, une nouvelle tentative d'attiser les tensions intercommunautaires pendant les élections. Drapée d'une tunique orange, la couleur traditionnelle des religieux hindous, Pragya Singh Thakur clame son innocence et se dit victime de persécutions par le parti du Congrès, désormais dans l'opposition. Figure du militantisme hindou, elle avait été condamnée en 2008 pour son rôle dans un attentat à la bombe la même année à Malegaon, dans l'état du Maharashtra. Pragya Thakur a passé 9 ans derrière les barreaux avant d'être libérée sous caution en 2007 pour raison de santé. Deux jours après l'annonce de sa candidature par le BJP, le père d'une des victimes de l'attentat de Malegaon a fait appel devant la justice, demandant à ce qu'elle soit interdite de se présenter. Si Pragya Thakur est trop malade pour rester en prison et se présenter aux audiences de son procès, elle ne devrait pas non plus, affirme-t-il, avoir la force de faire campagne. La participation de Pragya Thakur aux législatives est en phase avec la ligne communautaire adoptée par le BJP de Narendra Modi depuis le début de la campagne. Pour l'opposition, cette stratégie a pour but de masquer le bilan économique décevant du gouvernement nationaliste hindou de M. Modi.
Les Algériens sont à nouveau attendus en masse dans la rue cet après-midi pour un 9e vendredi consécutif de mobilisation après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, puis la chute d'un nouveau cacique du régime, Tayeb Belaïz, le président du Conseil constitutionnel. Les Algériens, galvanisés par les concessions obtenues, sont bien décidés à en arracher davantage encore. Au Soudan, là-bas non plus, la mobilisation ne faiblit pas. Bien au contraire, l'association des professionnels soudanais, le groupe en première ligne de la contestation, a annoncé ce matin son intention de mettre en place une autorité civile après avoir demandé en vain le départ des militaires au pouvoir. Toujours au chapitre de la valse des personnalités au pouvoir, la nouvelle hier de la démission du Premier ministre malien, mais aussi de l'ensemble de son gouvernement, a vite fait le tour de Bamako, donnant lieu à des scènes de liesse. Il faut dire que la personnalité de Soumelou Boubeye Maïga cristallisait les critiques depuis déjà plusieurs semaines, en particulier après le massacre de 160 habitants d'un village Peul par des membres présumés de groupes de chasseurs d'Ogon. C'est une correspondance à Bamako signée Marie Matigo.
Soumaïlou Boubeye Maïga a donc décidé de prendre les devants et il a présenté sa démission quelques heures avant le vote d'une motion de censure à l'Assemblée nationale. Motion qui avait été déposée à la fois par des députés de l'opposition et des élus de la majorité présidentielle qui lui reprochent de mal gérer le pays. Le Premier ministre était également sous le feu des critiques des leaders religieux du Mali qui avaient organisé une manifestation il y a 2 semaines. Plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient descendues dans la rue à Bamako pour exiger son départ. Alors que reproche-t-on à Soumaïlou Boubeye Maïga ? Tout d'abord la détérioration de la situation sécuritaire. Selon le gouvernement, depuis le début de l'année, 400 civils et 150 militaires maliens étrangers ont été tués dans tout le Mali. Surtout le massacre d'Ogossagou dans le centre du pays, où plus de 160 civils peuls ont été tués, a choqué le Mali. Le Premier ministre n'a pas su non plus calmer les conflits sociaux. Après les 3 mois de grève des magistrats l'année dernière, ce sont cette fois les enseignants qui paralysent le Mali. Les élèves ont déjà manqué plus de 50 jours de classe. Certains observateurs évoquent également un conflit personnel avec le président du Haut Conseil islamique malien ou encore des dissensions au sein de la majorité présidentielle en vue des futures élections législatives.
Ils sont des centaines de militants écologistes à bloquer depuis ce matin l'entrée de 4 bâtiments du quartier d'affaires de la Défense dont les sièges de Total, la Société Générale mais aussi EDF pour une journée de désobéissance civile destinée à dénoncer donc cette alliance toxique selon eux entre le politique d'un côté et puis les grandes entreprises de l'autre, une action qui s'inscrit en réalité dans le cadre de la semaine de rébellion lancée lundi par le tout jeune mouvement Extinction Rebellion et dont les actions ont été particulièrement suivies à Londres. Véronique Robérot, bonjour.
Bonjour.
Alors cette opération avait été préparée dans le plus grand mystère. Elle se déroule en ce moment même dans quelles conditions ?
Très bonnes conditions, ils sont bien là, calmes, environ 2000 citoyens, des militants aussi à bloquer les entrées de plusieurs sièges de multinationales, donc de banques, et une annexe aussi du ministère de l'écologie, tous situés à la Défense. Ils sont aussi entrés à l'intérieur des bâtiments tôt ce matin, partout collés sur les façades, aussi sur le sol, des portraits d'Emmanuel Macron, président des pollueurs. Les bâtiments investis ont été entourés aussi de rubans plastiques, de signalisation, où l'on peut lire « scène de crime climatique ». Manon est venu spécialement de Bordeaux pour cette action de désobéissance civil, c'est sa première action, parce que manifester ne suffit pas apparemment.
C'est vrai qu'on fait tous des petits gestes, mais aussi aux grandes entreprises de faire des gros gestes, parce que c'est eux qui font plus de pollution quelque part que nous en individu. J'ai commencé à signer par exemple la pétition de l'affaire du siècle, on a fait les marches pour le climat sur Bordeaux. ils ont mis en justice et ça ne se passe rien légalement. On leur a dit plein de fois de changer sur, par exemple, les énergies fossiles. Et moi, je n'ai pas envie de regarder mes enfants plus tard et leur dire quand j'étais jeune, j'étais chez moi et j'ai rien fait, quoi.
Voilà, c'est nul, lâche en riant un salarié d'EDF empêché d'aller à son travail en riant, car tout se déroule quand même dans le calme. Et Charles, ce salarié d'EDF, dit comprendre quand même cette action en partie.
Alors paradoxalement, j'ai tendance à être d'accord avec eux, mais peut-être pas dans la manière de faire. Il faut peut-être revoir leurs priorités dans le sens où EDF, c'est pas forcément l'entreprise qui est la plus carbonée. Dans le sens
grâce
où...
au nucléaire.
Grâce au nucléaire notamment.
Il y a Total en face, vous voudrez mieux qu'ils concentrent leurs actions sur Total,
voilà,
c'est ça ?
Voilà, c'est ça, qui bloque Total, qui démantèle Total.
Aussi.
Non, en fait, c'est juste que globalement, je suis d'accord avec le mouvement pour la protection du climat et la réduction des effets de serre. Mais je pense pas que EDF soit une entreprise qui soit blâmable dans cette optique-là.
Voilà, jusque la part d'intervention des CRS, ils sont plutôt discrets pour l'instant, donc à la défense. L'opération est non violente, insistent les organisateurs, même s'ils s'attendent à être délogés à tout moment.
Merci Véronique Robérotte. Conditions d'exercice dégradées, impossibilité de faire son travail correctement depuis des mois. Les soignants de l'hôpital public dénoncent leurs conditions de travail. Les syndicats réclament 700 postes de plus et une prime de 300 euros pour les services d'urgence. Depuis ce matin, les professionnels des services d'urgence de l'assistance publique hôpitaux de Paris sont appelés à une grève générale de 24 heures. C'est une liste qui n'en finit plus de s'allonger, une liste morbide, celle des suicides dans la police. Hier encore, deux fonctionnaires se sont donné la mort à Paris et à Montpellier, ce qui porte à 28 le nombre de suicides dans la police depuis le début de l'année. Ils étaient 35 policiers, 33 gendarmes à s'être donné la mort l'an dernier. Alors depuis une heure maintenant, des rassemblements à l'appel de l'ensemble des syndicats de policiers ont lieu devant tous les commissariats. Pour dire quoi ? Je vous propose d'écouter Linda Kebab, déléguée nationale unité SGP-FO, jointe au téléphone par Maud Calves. Pour elle, vous allez l'entendre, le problème est dans la gestion managériale.
Nous, on a des fonctionnaires de police qui me disent « je suis en burn-out, je suis au bord du gouffre, mais moi, ma hiérarchie, elle me dit bah, « tant pis pour toi, j'ai besoin que tu me fasses du chiffre. Quand je daigne m'absenter parce que je suis en congé, ils m'appellent en disant que je mets le service en plan et donc du coup, on me fait culpabiliser. » On a au ministère de l'Intérieur ce qu'on pourrait appeler dans le privé le harcèlement moral. Il y a une espèce d'omerta dans la police. Nous, on veut, c'est au-delà d'un numéro, une cellule qui n'est pas forcément efficace quand elle n'est déjà pas mise en avant dans les services. Et nous, ce qu'on veut, c'est une véritable refonte. On veut que le suicide des policiers devienne une priorité ministérielle, voire même une cause nationale. Parce que quand le service public va mal, ce sont tous les Français qui vont mal. On ne veut pas une simple cellule. Enfin, quand on a un ministre, on va au-delà d'une cellule. Ça, c'est un travail associatif de mettre un numéro vert. Ce n'est pas un travail de ministre. On attend autre chose de celui qui a la responsabilité de 110 000, 250 000 avec les gendarmes, agents des forces de l'ordre.
Voilà, Linda Kebab, déléguée nationale unité SGP-FO. Elle répondait à Maud Calves. L'invité Europe de la rédaction aujourd'hui, Daniel Ibanez, cofondateur du Salon du Livre des Lanceuses et Lanceurs d'Alerte. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Steven Goyer. Bonjour Steven.
Bonjour.
Avant de développer avec vous ce projet donc de directive définitivement adopté, c'était mardi par le Parlement européen, projet de directive sur la protection des lanceurs d'alerte qui ne pourront plus être condamnés ou sanctionnés lorsqu'ils dénoncent les activités illégales ou dangereuses d'une entité publique ou privée. Une première question, monsieur Ibanez, comment interprétez-vous l'arrestation la semaine dernière du lanceur d'alerte australien Julian Assange, poursuivi, je vous le rappelle, pour la publication donc de documents confidentiels du gouvernement américain par Wikileaks, c'était en 2010.
C'est un très mauvais signe pour les lanceurs d'alerte et pour toutes les personnes qui prétendent diffuser des informations dont la gravité est telle qu'elle réclame une réponse urgente de la société. Et c'est dramatique parce que nous avions nous-mêmes demandé dès 2015 au président de la République d'accueillir non seulement Julian Assange mais également Edward Snowden. Cette question, et Christiane Taubira nous l'a dit l'an dernier au Salon, a été mise sur le sur la table au Conseil des ministres et l'arbitrage a été de ne pas les recevoir. Nous portons une responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui et nos dirigeants seraient bien inspirés au moins de donner un visa à Edward Snowden.
Daniel Ibanez, Julian Assange ne sera pas concerné par le projet de directive européenne qui vient tout juste d'être adopté, on l'a dit, pour protéger les lanceurs d'alerte, mais ça y est, le combat est terminé.
Ah non, le combat n'est pas terminé, puisque comme vous le savez, ce texte est déjà une grande avancée au niveau européen, il faut le dire, parce que beaucoup d'États n'avaient pas les dispositions des principes fondamentaux qui existent en France. Le principe fondamental en France, c'est il sort de 1789 et de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme qui dit que pouvoir publier, écrire et transmettre son opinion est un des droits les plus précieux, sauf à répondre des abus. Je dis ça parce que beaucoup de gens pensent que quand on protège les lanceurs d'alerte, en fait, on ouvre la porte à la fausse information. Hein, il faut casser ce mythe. Lancer l'alerte, finalement, c'est tirer un signal d'alarme. Et comme, si vous prenez le métro, comme je l'ai pris tout à l'heure, il y a bien marqué, ne tirez le signal d'alarme qu'en cas de danger, tout abus sera sanctionné. Et en fait, ce que dit déjà la Déclaration des droits de l'homme, ce que dit la Convention européenne des droits de l'homme, liberté d'informer, liberté de s'informer, liberté d'expression, sauf à répondre des abus de la loi. C'est-à-dire que la citoyenneté repose sur deux éléments fondamentaux, le principe fondamental de la liberté, mais la responsabilité dans l'exercice de ce droit. Et donc, protéger les lanceurs d'alerte est une exigence pour tous les pays européens, mais il faut savoir que c'est déjà inscrit dans notre droit fondamental depuis 1789. On aurait pu s'en apercevoir avant.
Et la directive qui a été votée, elle prévoit notamment une protection globale des lanceurs d'alerte à l'échelle européenne, des salariés, des anciens salariés, des stagiaires et même des personnes qui auraient pu aider à faire fuiter les informations sur des agissements illégaux. Un petit peu pour contrebalancer la directive sur le secret des affaires, est-ce que cette directive, est-ce qu'elle aurait pu éviter des cas comme celui de Julian Assange, comme Antoine Deltour ou Irène Frachon?
Alors Antoine Deltour, oui, Irène Frachon également. Alors avec une différence entre Irène Frachon et Antoine Deltour, puisque Antoine Deltour était salarié, Irène Frachon n'était pas salarié de chez Servier, d'accord. Là encore, il faut reprendre le droit fondamental, hein, la liberté. C'est décrit très simplement, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ça règle le sort définitivement du laboratoire Servier. On a le droit de commercer des médicaments, mais pas du poison. Quant à Antoine Deltour, il y a effectivement une disposition qui est précise dans cette directive, qui montre qu'effectivement, quand ça n'est pas simplement une infraction à la loi qui peut être dénoncée pour avoir la protection, c'est également une infraction à l'esprit, au sens de l'esprit de la loi. Et donc, là, effectivement, quand il y a de l'optimisation fiscale qui peut être qualifiée d'abus de droit, eh bien, effectivement, le lanceur d'alerte est alors protégé. Et on va plus loin dans cette protection, et c'est cela qui est intéressant d'un point de vue européen, c'est que, y compris des actes qui auraient pu être poursuivis pénalement, comme la soustraction d'informations confidentielles, ou en tous les cas, dans le cadre de ce qui pourrait être apprécié comme déloyauté, même ça, vous bénéficiez d'une immunité, et c'est important au niveau européen.
Et les lanceurs d'alerte, ils pourront aussi désormais s'adresser directement à l'administration, puis aux médias, dans cet ordre, pour faire parvenir leurs informations. Et ce, malgré l'opposition notamment du gouvernement français qui souhaitait que ce type d'affaires soit réglé d'abord par une procédure interne à l'entreprise. Ce verrou, c'était l'un des principaux problèmes?
Alors, il y avait un véritable problème dans la loi Sapin 2, et pour laquelle j'ai émis de nombreuses réserves, et nous sommes nombreux à l'avoir fait, pour une raison très simple, c'est que il avait inversé la charge de la preuve. Il avait considéré que le lanceur d'alerte était un danger pour la société. La question qu'il faut se poser pour répondre juste à cette assertion, c'est fallait-il un lanceur d'alerte chez Lactalis pour révéler le fait qu'il y avait de la salmonelle? Et la deuxième question, c'est pourquoi n'y en a-t-il pas eu? Et on voit bien les désastres que ça peut produire, les risques que fait courir à la collectivité le silence. Et donc, il faut vraiment être très clair sur cette partie-là. Renoncer à l'information, c'est faire régresser la démocratie et en tous les cas mettre en danger la population.
Et comment vous expliquez ce vote très largement majoritaire, 591 pour, 33 contre? Il y a un changement dans les mentalités?
On ne peut que s'en féliciter. J'ai pas d'analyse politique sur ça. Nous sommes proches d'une élection européenne. En tous les cas, c'est sûr qu'il y a une véritable prise de conscience sur les problèmes.
Merci Daniel Ibanez, cofondateur du Salon du Livre des Lanceuses et Lanceurs d'Alerte, d'avoir répondu à notre invitation.
Qui se tiendra en novembre cette année.
Vous avez bien fait de préciser. Merci également à Steven Goyer. On termine avec un mot rapide de météo. Un temps particulièrement instable dans le nord-est, partout ailleurs. Nuages et éclaircies, les températures. Elles seront comprises entre 17 et 26 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue à 18h. Vous avez rendez-vous avec Antoine Marette pour le prochain journal de la rédaction.